I'd like to ask you about the present situation of mass media in relation to the free broadcasting movement and your notion of transversalité and so on.
Bravo, au moins vous posez une question bien en tête. Très bien.
Okay. In Japan, in comparison with the state intervention, mass media is much more controlled by the culture industry than the state. Nonetheless, this will be the peculiar to Japanese capitalism. The interest of culture industry is never against the state. It's synchronized. Yeah. But it is, I suppose it is different.
I should repeat?
No.
No? So, how about the situation in Europe? Maybe it's completely different from the Japanese situation. You should not mind about the Japanese situation, but you can talk about the European situation in terms of the state intervention and the culture industry.
Très compliqué. Bon. En France, après la guerre, le pouvoir d'État a pris une grande importance dans de nombreux rouages de la société, aussi bien dans les relations entre les travailleurs et le patronat, dans les relations culturelles, sportives, dans tous les domaines. Il faut dire que cette idéologie en faveur du pouvoir d'État était et toujours malheureusement soutenue par la gauche, par les partis de gauche et par les syndicats. Ainsi, soit directement, soit indirectement par des sociétés mixtes ou des associations qui ne sont pas réellement indépendantes, mais toutes sortes de secteurs sont sous le contrôle de l'État, soit directement, soit indirectement. Soit par un contrôle direct, soit par des questions de financement, soit par des systèmes d'influence. Avec le pouvoir de plus en plus réactionnaire qui s'est instauré en France, notamment avec le gouvernement de Giscard d'Estaing, cette tendance s'est encore accentuée. Aujourd'hui, le gouvernement a placé ses propres hommes partout, dans les universités, dans les grands systèmes de presse, dans les radios et les télévisions.
You have only the public television only? You have any private station?
Any.
Oh.
It's forbidden.
Explicit control, not implicit like Japan.
C'est un mécanisme très hypocrite. Parce que juridiquement, les chaînes de télévision et les radios sont indépendantes, juridiquement. Mais en fait, c'est le gouvernement qui place les dirigeants et qui contrôle le financement, contrôle tout. L'imposition d'un certain nombre de personnes, de groupes, qui ont réfléchi à ces questions, en particulier, disons, pour fixer une date depuis mai 68, est qu'on ne pourra pas avancer. Les luttes sociales ne pourront pas progresser tant qu'il y aura cette mainmise du pouvoir sur les masses médias. Car ce contrôle s'exerce non seulement sur l'idéologie des individus, mais aussi sur leurs mécanismes psychiques les plus profonds, les plus inconscients.
Et so, what about the culture industry?
Oui, la situation est d'autant plus compliquée. C'est que les forces de gauche à la fois sont victimes de ce système et complices de ce système. Elles sont victimes parce que leurs leaders ne peuvent que très difficilement parler, par exemple dans la télévision, qui est le média numéro un. Premièrement, on va couper le mal. Mais elles sont complices parce que leur idéologie les conduit à cependant soutenir le principe du monopole sur les médias. Ainsi, par exemple, voici un paradoxe. Les groupes militants auxquels je participe, qui ont lancé des radios libres, ont, dans la dernière période, pas au début, dans la dernière période, eu le soutien des partis de gauche et des syndicats, mais qu'ils l'ont fait en disant « nous sommes quand même pour le monopole ». C'est uniquement parce que le monopole est mal appliqué. Mais nous ne sommes pas pour la liberté des radios, nous sommes quand même pour le monopole. Mais le monopole est dévoyé, comme ils disent. Cela nous prouve que cette question de la contestation des médias et des radios libres pose non seulement le problème de la manipulation des esprits et des idéologies par les médias, mais aussi un problème politique relatif à la conception de l'État. Hein? Ça fait donc trois questions. Oui, cela prouve donc, comme j'ai dit précédemment, que les médias intervenaient pour manipuler les idéologies. Deuxièmement, manipuler l'inconscient des gens, pour parler rapidement. Mais ça pose aussi un problème politique sur la conception des rapports entre les individus, les institutions et l'État. La gauche, dans ses conceptions et dans ses pratiques, n'est pas capable de faire face aux nouvelles conditions sociales, nouvelles conditions de vie. Et elle a continué d'orienter ses revendications, soit sur des revendications matérielles immédiates, donc salariales, soit de prise de contrôle politique des institutions existantes. Mais la situation et les aspirations ont changé. Et dans bien des secteurs, la gauche et les syndicats ont finalement une sorte de position conservatrice à l'égard de beaucoup de problèmes. En tout cas, n'offrent pas d'alternative crédible au pouvoir de droite et au pouvoir technocratique existant. Et ça, c'est très net depuis trois ans, depuis l'échec de la gauche aux élections législatives. Donc, je crois que ce qui est en question, c'est un renouvellement complet des formes d'organisation, des objectifs de gauche.
I asked you because you talked about the ironical function of the left in terms of the radio libre. Radio libre is against the state. That's okay. Yeah, you can concentrate your topics in the mass media.
C'est par les contacts que j'ai eus depuis pas mal de temps avec des amis de l'autonomie italienne que j'ai compris l'importance que pouvaient prendre les radios libres justement comme un des moyens de renouvellement des luttes sociales. Les radios libres permettent d'établir un contact beaucoup plus direct entre les individus, grassroots people, et les moyens d'expression. Un moyen d'expression beaucoup plus de contact beaucoup plus direct.
Approximately when it was?
It was in 1977.
Yeah.
This period with Radio Alice. Mais.
But you mean it, Radio Alice is earlier than the Radio Libre?
Alice, yes.
Oh,
earlier. Beaucoup plus tôt, oui. Les radios libres en France ont commencé seulement en 78-79. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que il faut bien comprendre que les radios libres en France sont plus un mouvement en faveur des radios que des stations de radio au sens où on le comprend actuellement. Et je vais m'expliquer. C'est un mouvement d'opinion qui développe des actions de radio, des actions radio pirates, mais c'est d'abord un mouvement d'ensemble qui emploie différents types de moyens que je vais énumérer après. Alors, ça va depuis l'installation de radios fixes, permanentes, exposées aux interventions de la police, comme par exemple Radio Paris 80, mais aussi ça implique l'existence de toutes petites stations d'émission faites avec quelques personnes, et quelquefois même des choses qui ne sont pas des stations de radio, mais le fait que des gens qui font un concert vont émettre, ou pour une réunion politique, vont émettre ponctuellement de cet endroit. Et il y a aussi actuellement un mouvement qui se développe de façon très puissante en France, c'est le mouvement des Citizen Band. Donc, il y a des moyens d'action les plus divers en faveur des radios. Et justement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de construire des grandes stations reconnues, mais que la radio, avec d'autres moyens, comme la vidéo, voire même des moyens d'émission télé, soient mises à la disposition d'un nouveau type de moyens d'expression pour les gens eux-mêmes. Et c'est ce qui inquiète aussi bien le gouvernement que les syndicats et les forces de gauche. Car le gouvernement, peut-être, serait prêt à faire un compromis pour autoriser certaines stations décentralisées, régionales, locales, à la condition qu'elles soient contrôlées par des notables, des villes, ou par des responsables. Mais depuis les événements de 77 en Italie, le pouvoir imagine que la radio libre est une sorte de dynamite, une dynamite sociale, ce qui est absurde, car la radio n'est qu'un moyen d'expression. Elle peut jouer dans un sens rétrograde ou progressiste, en liaison avec des luttes, avec des groupes sociaux réels. Au fond, les transformations technologiques de la radio, la miniaturisation du moyen d'émission, peut être comparée à l'évolution, par exemple, des moyens de reproduction, des moyens de rodéo, de duplicateur, des choses comme ça. C'est pas le moyen, lui, qui est révolutionnaire. C'est l'utilisation que les groupes sociaux peuvent faire de ce moyen. Alors, il nous semble absolument légitime d'exiger la liberté de l'utilisation de ces moyens. Il n'y a qu'en Union soviétique qu'on ne peut pas utiliser des duplicateurs ou des photocopieuses librement. Il en va de même avec les radios. On nous fait toujours l'objection de mauvaise foi de dire que la libre utilisation des ondes risquerait de perturber les communications avec les avions, ou les communications des ambulances et des choses comme ça. Mais c'est un argument de mauvaise foi. Hein. D'abord parce que nous, ce que nous demandons, c'est des moyens d'émission qui ne soient pas à longue portée, des moyens d'émission par modulation de fréquence à petit moyen de rayon d'action. Et deuxièmement, parce que nous ne sommes pas hostiles à la Fédération des radios libres, à des contrôles techniques, du moment qu'il ne s'agisse pas de contrôle politique et d'aucune tutelle institutionnelle.
What about the influence of culture industry into the situations in terms of the sponsorship?
Yes. La situation est très ambiguë. Car il y a de très très gros intérêts privés, notamment des stations, des producteurs de disques, qui seraient en faveur de la liberté des radios, et aussi des grosses agences de publicité. C'est pour cela que le groupe auquel je participe, qui est la Fédération des radios libres non commerciales, s'est prononcé en faveur de radios libres non commerciales. La question de la législation de la publicité est d'une autre nature et ce n'est pas notre objectif de financer les radios par des moyens publicitaires. Nous voulons financer nos propres radios par les auditeurs qui envoient eux-mêmes de l'argent si les programmes leur plaisent, comme ça existe d'ailleurs aux États-Unis.
But for the present, they are illegal.
Yes, sure. I have process. Moi, j'ai des procès. Mon fils, qui est technicien radio, a aussi des procès. On a des saisies de matériel. On a sans arrêt la police sur le dos, des arrestations, des saisies de matériel et des amendes.
But the station is working now.
Yes.
Working now.
Et oui, c'est Radio Paris 80.
How many hours they have the program?
Ça dépend. Là, pendant les vacances, on avait arrêté, mais il y a environ 10 heures de programme par jour, matin et soir.
Would you tell me about the program? Because Japanese audience do not know what is the Radio Libre and what kind of program they provide. So,
Alors, je répète d'abord que je peux parler de la radio à laquelle je suis lié, mais les autres sont très différents. Par exemple, il y a une radio qui émet le soir très tard et toute la nuit et seulement de la musique.
Over 100 stations of Radio Libre?
Station, it's a big word.
Well, it's just like in the United States, but a long time ago.
A long time ago, yes. Yes, all right.
But in the United States, many colleges and universities have their own stations, but then never subversive.
Yes.
Maybe
en France, ce qui rend subversif les radios, c'est l'absurdité du monopole du pouvoir d'État. Sinon, il n'y a rien de subversif les radios. C'est évident, les gens qui font ça ne sont pas subversifs. C'est le fait qu'on se heurte à cette espèce de monstruosité du pouvoir d'État qui prétend avoir le contrôle sur les citizen bands, sur des choses ridicules. Comme s'ils voulaient contrôler, je te dis, les magnétophones, les duplicateurs, les photocopieurs. Mais les radios libres, en tant que telles, ne sont pas révolutionnaires. C'est la contradiction qui fait apparaître des problèmes.
So, you may talk about the program in Paris.
Alors, une partie du programme consiste à donner des informations sur les groupes alternatifs, aussi des informations qui sont données directement par les gens eux-mêmes, qui téléphonent et qui peuvent parler directement dans la station. Alors, par exemple, les informations, nous ne disposons pas d'un réseau d'agences de presse spéciales, encore qu'on voudrait faire une agence de presse alternative, mais les informations sont discutées directement avec les gens qui téléphonent. Et alors, il y a aussi beaucoup de reportages en direct, de réunions, de groupes de musique, de choses comme ça. Nous recevons aussi des cassettes, des enregistrements qui sont faits par des groupes et que nous passons aussi directement. Un ami italien qui est un des animateurs, qui a été un des fondateurs de Radio Avis, a donné une bonne définition de ce que doit être une radio libre. Et alors, il dit, la radio libre, c'est important parce que quand une personne ouvre le poste de radio et puis entend des bruits bizarres, le micro qui tombe par terre, des gens qui se contredisent, tout ça, il a une sorte de choc. Il se dit, ah, ça peut être ça la radio. Ça pourrait donc être quelque chose de complètement différent des voix stéréotypées, des personnages qui font qui ont une performance linguistique très. C'est une démystification. La radio, tu peux la faire, je peux la faire, je peux parler dans la radio, j'ai pas besoin d'être une vedette ou un.
Also, did you talk about the schizoanalyse in the station?
Pas avec ce terme-là, mais je crois que le phénomène de la radio est quelque chose comme une schizoanalyse des mass médias. C'est pas la peine de faire un discours sur la schizoanalyse, il suffit de faire la radio libre. Schizoanalyse des médias.
Yeah, right.
Do it yourself.
Mm-hmm. But did you talk about your theory in this station?
I don't.
No? Okay, generally speaking, a conventional function of mass media is to centralize and to homogenize, basically. In what point do you find another function of the free radio movement, for instance, to decentralize and to diversify and something like that? This is my question in terms of your theory.
Yes. Cette fois, dans ma perspective théorique, la question des radios libres dépasse de beaucoup une simple démocratisation de l'information. C'est beaucoup plus qu'une simple démocratisation. Car avec Gilles Deleuze, nous considérons qu'il n'existe pas, à proprement parler, de langue nationale au niveau des agencements des îles. Nous mettons en question la notion de langue nationale, d'unité de la langue nationale. Les langues nationales correspondent toujours à des formations de pouvoir national. En fait, nous avons toujours affaire à une multitude d'agencements, moi je dis de sémiotisation, d'agencements linguistiques, mais de sémiotisation différents. On parle sans arrêt une multitude de langues différentes,
okay.
De langues mineures.
Right. Go ahead.
Et les enfants, entre eux, ne parlent pas la même langue que la langue qu'ils parlent avec les parents. La langue qu'on parle dans le système domestique est différente de la langue professionnelle. La langue que l'on parle dans une banlieue est différente de la langue qu'on parle à l'université. La langue qui est parlée dans la télévision n'est pas la même que celle qu'on parle dans la vie quotidienne. La langue amoureuse est différente de la langue littéraire, etc., etc. Les dictionnaires, les académies et la façon dont les médias officiels sont faits veulent faire croire à une seule langue, à une traductibilité générale de toutes les langues. Mais les linguistes, par exemple en Amérique, ont montré que le Black English est une langue différente de l'américain. Et même certaines linguistes ont montré que les femmes ne parlent pas exactement la même langue que les hommes. Madame Lakoff, par exemple, une linguiste américaine. Alors, une autre organisation des médias, au lieu d'écraser les spécificités de ces langues, peut au contraire leur donner une liberté d'expression. Ce qui est en question alors, c'est le respect, le moyen donné aux singularités de désir qui correspondent à ces langues particulières. Donc, les masses médias peuvent avoir aller dans deux directions. Soit unifier, écraser, traductibiliser, tout le monde parle les mêmes langues, a les mêmes sentiments, a le même comportement, ou au contraire, aider à faire sentir ce qu'est le langage, ce qu'est le comportement, ce qu'est le désir d'un groupe particulier. Comment vivent tel groupe d'enfants, tel groupe d'homosexuels, tel groupe qui vit à la campagne, tel groupe qui vit dans tel de poètes ou de savants, etc. Faire communiquer les singularités de désir et pas écraser.
I suppose what did you say just now is relate to the topics of the cities, between the relationship between cities and countries. What about the difference between cities and countries in terms of culture, language, and so on? When you have been committed to the free broadcasting movement.
Premièrement, la campagne n'est pas enfin, la campagne, c'est colonisée entièrement par la ville. Mais ce qui compte, c'est les rapports entre Paris comme centre et la province, ville de province. C'est la culture industrielle. Mais par contre, cette question des radios libres est très importante pour lutter contre la toute-puissance de l'expression culturelle et politique centralisée sur Paris, l'impérialisme parisien. Et le mouvement des radios libres s'est d'ailleurs surtout développé en province. Parce que dans toutes les rencontres politiques et culturelles auxquelles j'ai participé depuis longtemps, parce que je n'étais pas jeune, toujours, il y a toujours un moment, une intervention où quelqu'un se lève et dit « Ouais, mais nous, en province, c'est pas comme à Paris, on peut jamais s'exprimer, on vient à Paris, etc. » Il y a toujours, dans tous les domaines, hein, les groupes de gauche, d'extrême gauche, les groupes culturels, politiques, et les radios libres sont un moyen de se libérer de ce centralisme. Mais c'est aussi le problème de la presse alternative. C'est tout à fait pareil.
Monsieur Gattari, I'm thinking about the influence of mass media based on the big organizations. It's a state control. Such kind of station homogenized almost all kind of subversive tradition and subversive diversified cultures, various culture in countries, in cities, anywhere. But do you think your movement can revitalize, deactivize such subversive tradition in your country?
Il me demande si ça peut y avoir une activation locaux. Oui, je pense, oui. C'est très net, par exemple, justement, avec Radio Cachemire. Qui émet où il parle à la fois dans les mêmes régions, à la fois le français, l'allemand et puis l'alsacien. Et nous voudrions aussi développer, mais ça, la répression est très forte, des radios pour les travailleurs immigrés. Mais ça, c'est très très dur. C'est notre objectif de faire des radios.
Such trends belong to the radio label or the big radio stations? You are talking about the Radio Libre, so, okay.
Oh non, effectivement, maintenant, il y a une tendance du gouvernement à suivre les radios libres et à faire des stations régionales, très contrôlées. Ils en implantent maintenant, je ne sais pas combien, une vingtaine actuellement. Ça ne répond pas à notre problème.
Jules Drews, in his interview with Kaye de Cinema, November 1976, compared Godard with your theory or your position. He's saying something like that. Godard is critical that the audience should be paid. He said the audience should be paid just like the producer and so on. While you are critical to the conventional the conventional situation in which a psychoanalyst never pays money to his patient.
À un congrès de l'école freudienne, où il était question, dans des termes très formels, du problème de l'argent et de la psychanalyse,
j'avais dit, ça n'a pas fait rire l'audience, que puisque le psychanalyste faisait un travail, et que le patient, le psychanalysant, faisait aussi un travail, il faudrait que l'un et l'autre soient payés. Mais là-dessus, la discussion, le président de séance a arrêté aussitôt la discussion.
But I think it's very important point.
Oui, le point derrière ça, c'est que les sociétés dans lesquelles on est, les sociétés que je dis capitalistiques, parce qu'elles concernent aussi bien les pays d'Est que les pays occidentaux, ne valorisent qu'un certain type de production. Je crois que il faudrait, dans mon point de vue, ne pas se contenter du couple marxiste des valeurs d'échange et des valeurs d'usage. Il faudrait aller au-delà. Je crois qu'il faut introduire deux autres types de valeurs, les valeurs de désir et ce que j'appelle les valeurs machiniques. Et ainsi comprendre que les valeurs d'échange sont quelque chose dans la société qui doivent s'articuler aussi aux valeurs de désir et aux valeurs machiniques, aux valeurs de progrès machinique. Les valeurs machiniques, c'est que ce sont, disons, les valeurs de création, les valeurs d'invention. Aujourd'hui, une innovation technologique, une équation scientifique, chimique, ne prendra de valeur dans le registre des valeurs d'échange que si elle a son utilité immédiate dans les processus de production. Mais il y a des valeurs de création, des valeurs de création esthétique, scientifique, et qui n'ont pas d'effet immédiat sur les valeurs d'échange et qui mériteraient d'être financées. Donc, pour moi, je dis, les valeurs machiniques, c'est mon expression, les valeurs de désir, un enfant qui va faire des dessins, qui prend, c'est quelque chose, ou quelqu'un qui va chanter dans la radio, c'est quelque chose qui devrait s'insérer dans les valeurs d'échange au même titre que les autres valeurs d'usage. Par exemple, le travail des femmes à la maison, le travail des enfants à l'école, c'est une vision peut-être utopique, mais c'est quelque chose qui nous permet de comprendre, de critiquer le mode de valorisation capitaliste.
C'est toute la finalité de la division sociale du travail qui est en question. La division sociale du travail toujours converge vers les valeurs du capitalisme. Mais elle peut aussi, on peut imaginer qu'elle puisse aussi converger vers la vie quotidienne, l'aménagement de l'environnement, l'aménagement, les possibilités données aux valeurs de désir, aux valeurs de création. C'est une toute autre finalité sociale. Le capitalisme s'est construit, a construit son système de hiérarchie, de ségrégation sociale, sur la rareté des marchandises produites. Mais les valeurs de désir, les valeurs que j'appelle machiniques, ne dépendent pas forcément de la rareté des marchandises. Donc, on peut imaginer une société où les activités humaines ne soient pas sous la dictature des valeurs économiques de rareté. C'est ça que j'appelle, pour moi, la perspective d'une révolution moléculaire. Changer les objectifs de la finalité sociale du travail, la finalité des activités. Ce qui est possible si la machine productive est suffisamment développée pour supprimer la rareté, supprimer la faim, supprimer les besoins de logement, etc. Or, aujourd'hui, le capitalisme entretient la rareté, affame une partie de la planète, produit artificiellement de la rareté. C'est complètement absurde. Pour se maintenir, il produit la rareté. Par exemple, la rareté dans l'université. Tout le monde ne peut pas faire les études. Pourquoi ? La rareté dans les moyens d'expression, dans les médias, pour chanter, pour créer. Mais pourquoi ? Seulement des vedettes, seulement, ou des champions de sport.
You mentioned about your involvement in movie. You wrote a scenario, script.
Je travaille avec des amis, oui, dans la vidéo, mm-hmm. et oui, nous avons produit là récemment un petit film vidéo pour la Biennale de Paris, en utilisant notamment une caméra de vidéo miniaturisée qui s'appelle en français la paluche. Mm-hmm. P-A-L-U-C-H-E. Tu connais la paluche, non? C'est un ami, Beau Viala. Qui travaille à Grenoble, qui est un avis de Godard, qui a inventé une caméra extrêmement maniable, une caméra vidéo qui est aussi maniable qu'un micro. Et nous avons aussi expérimenté les procédés de colorisation vidéo, essayer d'expérimenter ces nouveaux moyens d'expression différents sujets. Enfin, le réalisateur est un de mes amis, François Pain, qui a d'ailleurs fait 4 mois et demi de prison, absolument pour rien, dans une histoire de répression. Mmh. Tu n'étais pas au courant de
ça. Non, non.
C'est un de mes très bons copains qui a été en prison à ma place, on peut dire, parce qu'on soutenait les Italiens, et la police a fait une répression très forte sur tout notre groupe d'amis.
François Pain.
P-A-I-N. Parce qu'il a été arrêté après, à propos d'une manifestation à Paris.
Pour notre soutien contre l'extradition des militants italiens.
Sauf que lui, François Pain, est allé en prison. Moi, je ne suis pas allé en prison. Mais c'est mon très bon ami. Non, division du travail. C'est un très très bon copain et c'est avec lui qu'on fait cette tournée. Et d'autres.
Did you have a collaboration with Jean Godard?
Pas régulière, je le connais, mais pas de collaboration directe.
As a matter of fact, he's still radical. You think so?
Enfin, disons qu'il a, pour faire une réponse très sournoise, disons qu'il a, il a participé à des mouvements radicaux. Ouais.
Still now? Recently, I have read a news article.
No comment.
He made a film in Hollywood recently.
Yeah. Et c'est difficile de juger. Moi, je fais pas de jugements moraux sur le. À certains moments, quelqu'un joue un très grand rôle. À d'autres moments, il suit sa trajectoire. Moi, je suis pas un juge, un moraliste à l'égard de tout ça. C'est un très grand créateur. Bon, il suit sa trajectoire.
For the present, you intend to still continue to. To commit yourself to the radio movement?
Oui. Oui, oui. D'autant plus que maintenant, alors qu'au départ, nous étions dans de tout petits groupes, une poignée avec Guy, des gens comme ça, maintenant, il y a le Parti Socialiste, toutes sortes de mouvements de gauche, la CGT, qui s'est mis à défendre les radios libres. Sauf que la CGT a fait fermer Radio Longueuil. Elle-même a fait fermer. Parce que c'est senti menacé, le bureau confédéral. Mais maintenant, le problème des radios est vraiment devenu un problème national. À Longueuil, il y a eu de très grosses luttes ouvrières contre la fermeture des aciéries. Et pendant un an et demi, ils ont fait une station de radio libre très puissante. Mais radio libre ouverte aux autres syndicats, aux autres groupes. Et ça n'a pas plu à la direction confédérale de la CGT. Toujours le même problème où on voit que une certaine conception du centralisme étatique se retrouve quelque part dans le fonctionnement des organisations.
Could you summarize your videotape work, the story? Very brief.
C'est quelqu'un, un homme, qui part de chez lui en claquant la porte à la suite d'une dispute avec sa femme. Qui descend très vite l'escalier et qui dit quelques mots au concierge qui va chez différents commerçants, mais qui, à travers ça, ressent toute une série de changements dans sa perception du monde autour de lui. Qui vit donc une crise psychologique très grave, et ce qui le conduit à prendre contact avec d'autres gens, avec notamment un groupe de marginaux, un groupe. Mais dans un premier temps, il ressent les publicités, ce que lui disent les commerçants, comme quelque chose de menaçant. C'est comme un début de trouble un peu paranoïaque, quoi. Et puis, il voit ces gens très différents, qui ne cherchent pas à le prendre, à l'attirer, mais ils s'associent à eux, ils marchent avec eux dans ce qu'on appelle les squats, tu vois, les usines squatterisées. Ils marchent avec eux, et puis ça n'est que la première partie, parce qu'on voudrait ensuite développer une autre partie sur... Mais on a eu l'argent seulement que pour la première partie, un tout petit peu d'argent.
What is the style of this work? It's a lot of...
C'est très particulier parce que la caméra permet de faire des mouvements extrêmement adaptés à chaque situation. Il y a beaucoup de gros plans et je crois que ça, cette technique et la technique de François Pain capte des gestes, des phénomènes d'ambiance qu'on ne peut pas saisir avec une caméra, avec des mouvements plus classiques. C'est une prise beaucoup plus plastique des mouvements, des expressions de visage, des impressions. C'est une, je sais pas comment dire, ça démultiplie les possibilités de mouvement, quoi. Et la colorisation donne aussi beaucoup de moyens de traduire des
Could you give us your bibliographical notes for the reader? That's done. Very general.
Pas les livres.
Non, pas les livres.
Ben, j'ai 50 ans. Je suis né dans la région de Paris. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait un cursus très curieux. J'avais commencé des études de pharmacie. Ensuite, j'ai abandonné parce que ça ne me plaisait pas. J'ai fait des études ensuite de psychologie, de philosophie, et puis je suis rentré au séminaire de Lacan, au groupe de Lacan, dès 1953, dès le début, je suis resté là.
Qu'est-ce que c'est comme séminaire?
Et j'ai fait ma formation, j'ai été psychanalysé par Lacan, j'ai fait mon cursus de psychanalyse chez Lacan, et puis j'ai fait ma rupture avec Lacan au moment de la publication de l'Anti-Oedipe. J'ai travaillé depuis la création d'une clinique de Laborde, à Courchevel, clinique psychiatrique, où des systèmes alternatifs ont été mis en place, mais avec lesquels j'ai certaines divergences et il y a un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas du tout une équipe homogène actuellement. Quoi. Enfin, je suis toujours lié à cette clinique, mais je ne suis pas au centre de cette expérience.
Okay. Thank you very much.